Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, nous allons entrer dans ce que l'on nomme les méditations préliminaires communes, les préliminaires communs. D'abord, nous nous tournons vers l'éveil, nous nous tournons vers le Bouddha, Homme suprême, nature absolue, le Dharma, l'enseignement de réalité qui libère, le Sangha qui transmet, pratique, suit cet enseignement. Et dans une motivation de bienveillance, l'esprit d'éveil, l'esprit du cœur. Om Ahom. Les pratiques préliminaires communes sont communes parce qu'elles sont les bases, les fondements de tous les cheminements, de tous les yanas. C'est en ce sens qu'elles sont communes à tout ceci. Elles sont fondamentales, elles sont premières au sens où ces méditations ont le pouvoir de transformer notre mentalité. Et elles sont préliminaires car elles nous préparent pour être un réceptacle à la transmission et à sa pratique. Vajradhara Kalama Moche commençait rarement un enseignement sans rappeler ses méditations et sans inviter à les intégrer. Dans un de ses textes fondamentaux, le Bindu essentiel, il dit « Si notre esprit n'a pas assimilé les quatre idées retournant sa mentalité, méditerions-nous pendant des années, il est probable qu'il ne deviendra que plus rigide et attaché, aussi sont-elles la base indispensable de la pratique. » Donc, si notre esprit n'a pas assimilé ces quatre méditations préliminaires, ces quatre méditations fondamentales, quatre méditations sur quatre idées retournant la mentalité. C'est le nom de ces méditations en tibétain, Lodo, Lodo Namshi, les quatre pensées, les quatre idées, les quatre notions qui renversent ou retournent notre mentalité, qui est d'une mentalité attachée au samsara, orientée vers celui-ci, nous éveille ou fait naître en nous un état d'esprit, une mentalité tournée vers l'éveil. Et ce retournement, cette révolution, cette conversion de mentalité. Et s'il n'y a pas ce changement de mentalité, méditerions-nous pendant des années, on pourrait faire toutes sortes de méditations compliqué même, ou simple, je ne sais, pendant des années, il est probable que notre esprit ne ferait que continuer à se rigidifier, à se solidifier dans ses saisies et ses attachements. Donc, ces quatre notions fondamentales ont un pouvoir libérateur des attachements et de la saisie. Et elles sont ainsi la base de toutes les pratiques. Les pratiques préliminaires communes visent, par la réflexion et la méditation, à nous faire prendre conscience de quatre réalités qui stimulent notre motivation et engendrent une forte détermination à la pratique. Donc, stimulent notre motivation et engendrent résolution, détermination, énergie pour pratiquer. Ces méditations portent sur quatre idées, quatre notions, la précieuse existence humaine, l'impermanence et la mort, les défauts du samsara et la causalité du karma. Elles sont des préliminaires communs en ce qu'ils ne sont pas spécifiques au Vajrayana, mais partagés par les progressions de tous les yanas. Lorsqu'on souhaite s'engager dans la pratique du dharma, il est nécessaire tout d'abord de prendre conscience de la difficulté d'obtenir cette précieuse existence humaine dotée de toutes les conditions favorables à la délivrance. Cela établit l'esprit dans sa détermination à entrer dans la voie. Donc, ce dont il s'agit est de prendre conscience de la valeur de notre existence humaine, de la valeur de notre situation, qui n'est pas banale, qui n'est pas vulgaire, qui n'est pas à traiter de façon indifférente. Nous sommes dans une situation extraordinaire, une situation privilégiée, une situation riche, pleine de ressources. Nous sommes une personne qualifiée, dotée de toutes les qualifications qui permettent la voie de l'éveil, qui permettent de s'engager dans la quête, dans la réalisation. Nous sommes qualifiés et nous sommes libres. Nous avons la possibilité de le faire. Donc, il y a là une considération, une prise de conscience très importante qui peut amener aussi une confiance en soi. Nous avons les ressources, nous sommes capables, nous sommes aptes, c'est possible et cela tient à nous. Et c'est en sachant ainsi s'orienter que nous pouvons donner à notre vie son sens et donner un vrai sens à notre existence. Méditer sur l'impermanence de toute chose, et plus particulièrement sur celle de notre vie, nous fera ensuite rejeter toute paresse et pratiquer avec énergie. L'impermanence. Rien n'est stable, et moi-même, bientôt je serai mort. Nous sommes tous mortels. Il n'y a pas de temps à perdre. Donc, c'est la deuxième méditation sur l'impermanence universelle et la réalité de la mort. Puis, si nous reconnaissons la réalité de la souffrance régnant dans le cycle des existences, nous prendrons celui-ci en aversion et tous nos efforts ne tendront plus qu'à nous en libérer. La méditation sur le mal-être des existences conditionnées, le mal-être de l'existence habituelle. Et en prenant vraiment conscience, l'on ne s'y attache pas, l'on ne s'attache pas à ces plaisirs vains ou vanités de ce monde, et l'on peut avoir une aspiration profonde pour l'éveil, la libération. Enfin, si nous sommes convaincus de la réalité du karma, de l'enchaînement des causes et des conséquences des actes, nous rejetterons toute action nuisible, pratiquerons ce qui est positif et agirons ainsi de façon juste. Donc, l'intelligence du karma nous amène dans une discipline de vie saine et dans une attention à notre façon d'agir, à ce que nous faisons. Nous sommes responsables, nous sommes libres, nous avons un libre arbitre et il est possible ainsi de bien utiliser les circonstances de cette vie en cultivant ce qui est sain, vertueux et en évitant ce qui est pathogène, maladif et source de problèmes et de souffrances. Donc ces quatre méditations maintenant, en exergue se trouve chaque fois une stance qui vient du texte des pratiques préliminaires telles qu'elles sont accomplies. C'est le texte des pratiques Karma Kamsa, qui vient du 9e Karmapa. La première chose sur laquelle il faille méditer est notre précieuse existence humaine libre et qualifiée. Étant difficile à obtenir et facilement détruite, je vais maintenant lui donner son sens. Donc, notre situation présente, libre et qualifiée, ce sont les deux qualifiés, libre, libre, qualifié. Situation difficile à trouver, difficile à obtenir, et qui est facilement perdue, facilement détruite. Aussi, sans perdre de temps, maintenant, je vais l'utiliser pour ce qui fait vraiment sens, la voie de la délivrance, la voie de l'éveil. Avant de connaître le Dharma, nous pouvions aisément imaginer que ce monde dont nous faisons l'expérience est tout ce qui existe. Être né humain pouvait nous sembler une évidence à propos de laquelle nous ne réfléchissions même pas. En fait, l'existence humaine n'est qu'une infime possibilité parmi toutes les existences du samsara. Cette situation libre et qualifiée que nous sommes est rare. C'est une possibilité parmi une infinitude de possibles. Nous allons voir des exemples. De plus, même parmi les humains, il n'en est une quantité infime qui ont la précieuse existence humaine. L'existence humaine libre et qualifiée, on entend par là la condition humaine pourvue de toutes les libertés et qualifications nécessaires à la pratique du Dharma. Il faut d'une part qu'elle soit libre de toutes les circonstances en lesquelles on n'a pas le loisir de pratiquer, et d'autre part qu'elle ait toutes les qualifications personnelles et inhérentes à l'environnement qui permettent de pratiquer le Dharma de façon adéquate. Donc là, il y a tout un ensemble de considérations sur les libertés. Il y en a 8 si l'on entre dans les détails. Les qualifications, il en est 10, 5 qui nous concernent en propre, 5 qui concernent l'environnement. Il est bien de les étudier en détail, elles n'ont pas été développées ici. Le Bouddha Sakyamuni illustra la difficulté de l'obtention de cette précieuse existence humaine de 3 façons. Sa rareté est tout d'abord considérée en méditant une comparaison. Il est dit que si une tortue aveugle, nageant dans le vaste océan, fait surface tous les 100 ans, la probabilité qu'elle enfile son cou dans un joug de bois dérivant à sa surface au gré des vents est supérieure à celle qu'à la conscience transmigrant dans l'ensemble des possibilités d'existence d'obtenir cette précieuse existence humaine. Donc, la tortue aveugle de la conscience dans l'immensité infinie de l'océan des possibles, tous les 100 ans fait surface. Et elle a plus de chance, notre tortue, d'enfiler son cou dans un joug de bois dérivant à la surface de l'océan au gré des vagues, plus de chance que la conscience de se trouver dans la situation de la précieuse existence humaine. Sa rareté est ensuite considérée en méditant des rapports quantitatifs. Parmi toutes les possibilités d'existence, le nombre des êtres dans les états infernaux est comparable à celui des grains de terre de la planète. le nombre des esprits avides à celui des grains de sable du Gange, le nombre des animaux à celui des flocons de neige qui tombent pendant une année sur le Tibet, le nombre des êtres dans les trois mondes des distances supérieures à celui des étoiles de la nuit, alors que ceux qui possèdent la précieuse existence humaine sont aussi rares que les étoiles visibles en plein jour, aussi rares que les étoiles diurnes. Ce sont des images poétiques ou, qui nous donnent quelques rapports quantitatifs. Rare est cette existence humaine libre et précieuse. Sa rareté est enfin considérée en méditant sa cause karmique, qui est une discipline parfaite. En effet, l'obtention de cette vie humaine a pour cause des actions positives antérieures, non pas isolées et superficielles, mais fréquentes et répétées. Rares sont ceux qui en sont capables. De tous ces points de vue, nous prenons conscience de la rareté de cette précieuse existence humaine. Nous méditons aussi de nombreuses autres manières pour vraiment percevoir les qualités et les possibilités propres à cette existence humaine. Ce qui nous conduit naturellement à souhaiter faire tout notre possible pour les mettre à profit. Faire tout notre possible pour que cette vie humaine ait vraiment un sens, son sens, l'utiliser de façon significative. Ce que nous ferons au niveau essentiel, en l'utilisant comme point de départ et comme support du cheminement vers l'éveil. Un petit moment de méditation, méditation, réflexion, considération de cette précieuse existence humaine, rare, difficile à obtenir, facilement détruite. Donnons-lui maintenant son sens en faisant la base de l'éveil de la voix. La deuxième méditation est sur l'impermanence et la mort, avec en exergue de nouveau une stance. Le monde et les êtres sont impermanents. En particulier, la vie du corps est comme une bulle d'eau. Incertain est le moment du trépas, et mort, le corps devient cadavre. Pour que le Dharma puisse alors m'aider, je vais le pratiquer avec énergie. Donc, le monde et les êtres sont impermanents. Tout est impermanent. Il y a l'impermanence extérieure de l'univers, du monde, et l'impermanence des vivants, des êtres. Et en particulier, la vie du corps, notre vie, ma vie, est comme une bulle d'eau, fragile, instable, éphémère. Il est important de méditer particulièrement sur sa propre mort, la réalité de sa propre impermanence, car de différentes façons, nous avons tendance à occulter cette réalité et il y a là quelque chose que nous n'avons pas envie de voir, que nous ne voyons pas. Il y a une résistance archaïque à la réalité de notre propre impermanence, de notre propre mort. Et ce manque à voir, ce manque à comprendre, ce manque à accepter, à réaliser cette réalité de la mort est source de peur, de fixation extrêmement archaïque et qui nous conditionne dans notre vie de façon illusoire et douloureuse. Il est très important de prendre conscience de l'impermanence et de développer l'habitude de la percevoir en toute chose. Tout est transitoire, éphémère. Car ce que nous faisons avec l'idée que les choses sont stables et durables est illusion, source de fixation et de souffrance. Percevoir des entités, des choses comme stables, réelles, durables, permanente est illusion et une illusion qui est source de problèmes, source de douleurs, lorsque le caractère transitoire, impermanent, finalement se révèle. La méditation sur l'impermanence a le pouvoir de diminuer nos attachements à cette vie et de nous inciter à pratiquer ce qui est positif. Donc, ça n'est pas une méditation macabre sur la mort, mais une méditation libératrice, une méditation sur la réalité de l'impermanence et de la mort, nous libère d'illusions et d'attachements. Et elle nous incite, elle nous stimule vers ce qui est positif et vers l'éveil. C'est particulièrement important aujourd'hui dans notre société moderne car il y a un problème social, sociétal dans le déni et l'occultation de la mort. C'est une des caractéristiques de notre culture moderne que d'avoir... on peut parler de tout aujourd'hui de façon libre, on peut parler même de sexe et de toutes sortes de mœurs. Mais la mort reste quelque chose de très tabou et de très... ne parlez pas de ça. Et il y a là un véritable problème sociétal, humain, qui est aussi un problème spirituel. Cette vie n'est pas si importante en elle-même, et pourtant, nous nous en soucions constamment. Il faudrait mieux penser au moment où nous nous séparerons de ce monde et voyagerons dans l'inconnu du bardo, l'état intermédiaire. Nous serons alors seuls, à une distance inimaginable des choses et des personnes qui nous étaient familières en ce monde. Ce corps est un autel dont la conscience est l'hôte temporaire. Bientôt, ce voyageur migrant d'état en état partira vers de nouvelles destinations, laissant derrière lui l'auberge qu'il avait reçue. C'est la métaphore du migrant. Nous sommes des migrants. Nous sommes des passants. Je ne fais que passer. Et en même temps, cette image ne signifie pas qu'il y a une âme stable, permanente, qui passerait comme ça de corps en corps, mais elle illustre la continuité ou le passage, la transition. Nous sommes passants. Et c'est une expression traditionnelle, on parle de joa en tibétain pour un passant. Notre existence est transitoire, elle finira bientôt et nous serons tous séparés par la mort. Pour préparer ce départ, rien n'est plus important que la pratique du dharma, car rien d'autre ne peut vraiment alors aider. Il faut toujours être prêt à mourir. Nous préparant comme si nous devions mourir ce soir. Et si nous vivons encore, tant mieux, la préparation ne sera pas perdue. Vivre avec cette intensité eu égard à l'essentiel, comme si chaque jour était le dernier, sans perdre de temps, sans se disperser en de vaines distractions. Et si nous ne sommes pas morts, ce qui a été fait de vertueux, de bon, de positif, d'utile, ne sera pas peine perdue. La permanence est une réalité universelle. Le monde, qui nous paraît solide et stable, sera néanmoins, à la fin du cycle cosmique, graduellement détruit par le feu, l'eau et l'air. Il y a des cycles cosmiques dans la cosmologie traditionnelle, une sorte de pulsation cosmique avec des grands cycles, ce que l'on nomme des kalpas, qui, selon leur profondeur, amènent une résorption de l'univers, une destruction de celui-ci à des niveaux de subtilité de plus en plus profonds qui sont illustrés par les différents éléments. Feu, eau, air, ici. L'impermanence est évidente dans les transitions constantes du monde, dans l'écoulement du temps et le changement des saisons. Le temps passe, les saisons changent. Au printemps, la terre d'un brun rougeâtre s'attendrit, arbres et plantes bourgeonnent. Quand vient l'été, le sol, alors vert et bleuté, s'humidifie, feuilles et fleurs s'épanouissent, puis la force de l'automne affermit le sol, il devient ocre et les fruits mûrissent. Enfin, avec la venue de l'hiver, la terre gèle et devient grisâtre. Arbres et plantes se dessèchent et deviennent cassants. Le temps est cyclique. Les saisons se succèdent. Printemps, été, automne, hiver, printemps. C'est le cycle de la transition. Le cycle de l'impermanence. Il n'est rien qui soit permanent. Le soleil et la lune se lèvent puis se couchent. Au jour clair et transparent succède la nuit sombre et opaque. Tout change, d'heure en heure, de minute en minute, d'instant en instant, comme le cours d'une cascade qui, bien qu'il nous apparaisse toujours identique à lui-même, n'est pourtant jamais le même. Il est en continuel changement, l'eau s'y renouvelant sans cesse. L'impermanence est aussi instantanée. D'instant en instant, le changement est là. Les choses peuvent sembler stables ou peuvent sembler continue comme le cours d'un fleuve ou une cascade, et pourtant l'eau à chaque instant s'y renouvelle et on ne se baigne jamais en la même eau. La nature de l'impermanence est telle, alors ici il y a ce qu'on appelle les quatre fins, les quatre déterminations de l'impermanence, telles que tout bien et toute richesse accumulée finalement s'épuise. Tout ce qui s'accumule s'épuise. Tout ce qui a été érigé finalement s'écroule. Tous ceux qui se sont rencontrés finalement se séparent. Et tout ce qui est né finalement meurt. Ce qui est élevé est abaissé. Ce qui est en bas vient en haut. Le riche devient pauvre et le pauvre riche. L'ennemi devient ami, l'ami ennemi. Il n'est rien dont la nature ne soit impermanente. prendre pour permanent ce qui n'est que transitoire est comme l'illusion d'un fou. Méditer sur l'impermanence de toute chose, et plus particulièrement sur celle de notre vie, nous fait rejeter toute paresse et pratiquer le dharma avec énergie. La méditation sur l'impermanence est, on dit, la cravache du pratiquant. Elle nous donne la stimulation pour dépasser l'engourdissement, la langueur de la paresse. Quand nous aurons médité sur l'impermanence et compris le caractère transitoire de tout ce qui est composé, tout ce qui est composé est transitoire, tout ce qui est composé, tout ce qui est composite se décompose. Et c'est là la première caractéristique de l'enseignement du Bouddha, tout composé est transitoire. Lorsque nous l'aurons compris, notre attachement à cette vie et la force dissipation diminueront. Et d'autre part, notre confiance en le dharma grandira. Nous pourrons le pratiquer avec énergie, sans peine et sans difficulté, et obtenir finalement le suprême accomplissement de Mahamudra, réalisant que l'esprit est en lui-même, au-delà des naissances et des morts. Donc, la méditation sur l'impermanence nous libère des saisies, des fixations. Elle nous stimule dans la pratique et dans notre ardeur. Et finalement, nous permet d'accéder à la réalité de la nature de l'esprit, au-delà des changements, immuable, la réalisation de Mahamudra, au-delà des naissances et des morts. Une histoire célèbre sur l'impermanence. C'est justement le père de l'une célèbre. Si nous ne gardons pas l'impermanence présente à l'esprit, nous risquons d'être comme le père de l'une célèbre. C'était un homme pauvre qui, un jour, trouva un énorme sac d'orge. Pour le conserver et le protéger, il l'attacha chez lui au plafond au-dessus de son lit. Très content de sa découverte, il se coucha et se mit à songer qu'en vendant cette orge, il pourrait avoir beaucoup d'argent, ce qui lui permettrait de prendre femme, puis d'avoir une famille. Il se dit qu'il aurait sûrement un fils et se demanda comment il pourrait l'appeler. À ce moment, un rayon de lune pénétra dans la pièce et il se dit: je l'appellerai Lune Célèbre. Pendant qu'il était ainsi, tout à ses rêveries, des souris grignotaient la corde à laquelle le sac d'orge était attaché. Celui-ci tomba sur lui et le tua. Un petit moment de méditation sur l'impermanence, les causes de mort sont multiples. Nul ne sait quand il mourra. Il n'est pas de temps à perdre pour l'essentiel. La troisième méditation est sur le samsara et ses défauts, le cycle des existences conditionnées, le cycle de la vie, le cycle des états de la conscience, avec les défauts, les problèmes, les souffrances qui sont inhérentes à l'existence conditionnée. En exergue, le neuvième karmapa nous dit lieu, ami, bonheur, possession et autres choses du samsara sont toujours perturbées par les trois formes de mal-être. Donc, tout ce qui est du domaine du samsara, l'existence duelle, la dualité, la conscience habituelle, les lieux, les amis, les bonheurs, les possessions, toutes choses sont toujours perturbées, sont toujours soumises aux trois formes de mal-être, aux trois formes de dukkha, de mal-être, de disharmonie, de souffrance. Le mal-être fondamental, existentiel, qui naît avec l'être, le mal-être du changement, de l'impermanence, qui amène continuellement le manque et la frustration, et le mal-être de la souffrance au sens habituel, dans ses dimensions spirituelles, psychologiques et physiques. Et toutes ces situations, nous dit-il, sont comme le spectacle d'un bourreau me conduisant à l'exécution. Alors, attrayantes, les choses du samsara, lieu, ami, possession, bonheur peuvent l'être, mais sont somme toute comme la fête pour notre exécution, la célébration et les festivités autour du bourreau qui nous conduit à l'exécution. Il est clair que, perçu comme ça, ça n'aurait rien de folichon. Sans attachement pour eux, avec énergie, je vais pratiquer vers l'éveil. Cette résolution. Il est essentiel d'avoir la réalité du mal-être et des souffrances bien présentes à l'esprit pour comprendre de façon juste ce qui se passe autour de nous. Le monde, le samsara, est un océan de souffrance, comme on dit. Et il s'agit ici d'en prendre vraiment conscience, de percevoir cette réalité. Si nous sommes vraiment conscients de l'océan de souffrance du samsara, nous n'éprouverons plus aucune satisfaction pour ses attraits. Nous ne serons pas séduits par ses chimères, nous ne serons pas possédés par ses fantasmes. Ses attraits sont perçus comme vains et insubstantiels. Face à eux, nous pouvons alors être libres d'attachement, comme pour le spectacle qui serait donné en l'honneur d'une exécution dont nous serions le condamné. Et ici est une histoire, l'histoire de Nanda et de sa motivation. Nanda était le frère du Bouddha Sakyamuni. Il avait une très jolie femme à laquelle il était très attaché. Aussi, malgré l'exemple de son frère, ne voulait-il pas renoncer à la vie dans le monde ordinaire? Finalement, le Bouddha Sakyamuni le persuada de devenir moine. Mais Nanda avait du mal à bien garder ses vœux. Son attachement persistait et il voulait s'enfuir. Par ses pouvoirs miraculeux, le Bouddha Sakyamuni l'entraîna sur une montagne où vivait une vieille guenon estropiée. De cette guenon ou de ta femme, qui est la plus jolie? Demanda-t-il. Ma femme, bien sûr, il n'y a même pas lieu de comparer. Ensuite, le Bouddha l'emmena dans les états célestes. Ils y virent des palais somptueux où résidaient de merveilleux dieux et déesses. Dans l'un d'eux se trouvaient de magnifiques déesses, mais pas de dieux. Nanda demanda pourquoi. On lui répondit qu'un certain Nanda, un moine de la famille du Bouddha, devait reprendre ici par le pouvoir des actes positifs qu'il accomplissait actuellement. Nanda fut enchanté. Il se retourna vers le Bouddha Sakyamuni qui le questionna encore. Qui de ces déesses ou de ta femme est la plus jolie? Ces déesses le sont incomparablement plus, tout autant que ma femme l'était par rapport à la Golan. De retour dans le monde humain, Nanda, inspiré par cette aventure, commença à être fort diligent en sa discipline monastique. Mais le Bouddha Sakyamuni s'adressa aux moines et leur dit: Nanda suit la discipline pour renaître dans une contrée divine auprès de jeunes déesses, alors que vous le faites pour transcender toute souffrance. Sa motivation n'étant pas juste, ne vous associez pas à lui. Nanda en fut extrêmement affligé, et il demanda au Bouddha Sakyamuni ce qu'il devait faire. Celui-ci lui proposa alors de visiter les états infernaux. Il l'emmena en un endroit où des tortionnaires s'affairaient autour d'une marmite bouillante. Nanda leur demanda ce qu'ils faisaient et ils lui répondirent: Il y a un frère du Bouddha Sakyamuni, un certain moine Nanda, qui pratique la discipline pour renaître dans les états divins. Mais c'est ici qu'il renaîtra quand son karma divin sera épuisé. De retour, Nanda changea d'état d'esprit et se mit à pratiquer pour se délivrer de toutes les souffrances du samsara. Il devint un excellent moine. Voilà cette histoire de Nanda. Nous ne pensons pas assez que nous dépendons les uns des autres. Sur le simple plan matériel, nous sommes tous interdépendants pour nos besoins quotidiens. Et c'est ainsi que nous avons une dette envers tous les êtres. Cette interdépendance. L'homme est un animal social et nous dépendons les uns des autres pour toute chose. En prenant conscience de cette interdépendance et de ce que tout vivant aspire au bonheur mais souffre de maintes façons, nous pouvons développer véritablement bodhicitta. Nous sommes tous semblables dans notre aspiration au bonheur, nous sommes tous interdépendants, reliés dans une même famille. Et dans cette prise de conscience, nous pouvons développer une empathie, l'empathie de l'esprit d'éveil, l'empathie de l'esprit du cœur. Conscient du mal-être et de la souffrance omniprésents, notre amour et notre compassion grandiront et nous nous efforcerons d'avancer aussi vite que possible vers l'état de Bouddha pour obtenir les qualités qui permettent au niveau essentiel de soulager tous les vivants. La prise de conscience du mal-être, de la souffrance, nous stimule et nous engage à nous en délivrer, non pas d'une façon égoïste et personnelle, mais dans l'aspiration à pouvoir venir en aide, secourir tous les vivants, nos parents d'antan. Un moment de méditation sur cette réalité du samsara, l'existence conditionnée et de ses difficultés, ses souffrances, aspirant à s'en libérer. Quatrièmement, vient la méditation sur la causalité du karma. Avec de nouveau en exergue une citation du 9e Karmapa. Mort, nous ne sommes pas libres. Le karma nous possède. Aussi vais-je abandonner les actes négatifs et me consacrer continuellement aux actes positifs. Pensant ainsi, chaque jour, je m'examine. Donc, la vie se continue de mort en naissance, de renaissance en remords, dans, par le karma qui induit et conditionne les formes que prennent la conscience dans ses différentes expériences. Le comprenant, je vais abandonner ce qui est négatif, malsain, source de mauvaise existence, et me consacrer continuellement aux actes positifs, sains, source de bonne existence. Et dans cette intelligence, chaque jour de m'entraîner, chaque jour d'examiner ce que je fais pour pouvoir, dans un entraînement attentif, aller dans la bonne direction, cultivant ce qui est sain, évitant ce qui est pathogène. Tout ce que nous considérons comme notre moi, dans ses aspects intérieurs aussi bien que dans ses expériences extérieures, est la conséquence de nos agissements antérieurs. Et les actes de ce moi actuel sont à leur tour des causes qui engendrent des effets ultérieurs. Ainsi fonctionne le karma. Donc, moi, je suis le résultat du passé, et moi, ce que je fais maintenant, va déterminer ce que je serai à l'avenir. C'est ainsi qu'il y a une causalité, la causalité du karma. Le présent est déterminé par le passé, le présent détermine l'avenir, et dans le présent, il est une certaine liberté, un certain libre arbitre qu'il s'agit de bien utiliser pour rendre possible un bon avenir, un bon futur. C'est ainsi que la causalité du karma sous-tend la discipline du dharma. Tous nos actes du corps, de la parole et de l'esprit sont comme des graines dont les fleurs et les fruits viendront à maturité tout au long de nos existences successives. Les mauvaises graines donnent de mauvais fruits et les bonnes de bons fruits. Nous récoltons des résultats douloureux si nous agissons négativement et nous obtenons des résultats heureux lorsque nous accomplissons des actes positifs. Donc, l'on récolte ce que l'on sème dans cette perspective du karma, dans la causalité du karma. Attaché à la jouissance du moment présent, nous continuons à faire des actions malsaines engendrant des effets négatifs. Les actions malsaines viennent de l'attachement, de la saisie dans le présent. Nous visons le bonheur, mais retenus dans l'obscurité de l'ignorance, nous agissons maladroitement, comme si avec un arc, nous tirions en pleine nuit des flèches sur une cible invisible. Bon, nous aspirons au bonheur, mais souvent nous induisons des causes de malheur, de souffrance, et dans l'ignorance, nous ne savons comment bien nous diriger, et comme tirant flèche vers une cible invisible dans la nuit obscure. Si nous produisons beaucoup de karma négatif, nous ferons l'expérience des mondes inférieurs, et ce que nous y vivrons dépendra de ce karma. Au fil des transmigrations, nous ne sommes pas libres. Le karma détermine nos naissances et les expériences heureuses ou douloureuses que nous y faisons. Il n'y a pas de juge qui dise « Vous avez été mauvais et méritez donc maintenant de souffrir ». Nos malheurs comme nos bonheurs proviennent du karma que nous avons nous-mêmes induit. Nous ne sommes pas dans une perspective juridique ou théiste avec un juge, un jugement et ensuite de se sentir coupable, mais nous sommes responsables et nous vivons en fonction de ce que nous fîmes et nous vivrons en fonction de ce que nous faisons. Future is now. Et nous avons la responsabilité de bien utiliser notre liberté présente pour le bien préparer. C'est par l'effet de leur karma que les Occidentaux pensent qu'ils doivent travailler si dur pour le confort et la sécurité matérielle, qu'ils y passent tout leur temps et qu'ils n'en ont plus pour étudier et pratiquer le dharma. Ce n'est pas Dieu ou un agent extérieur, quel qu'il soit, qui crée le monde dans la complexité de tous ses détails. C'est le karma de tous les êtres qui y vivent. Notre expérience, ce que je suis et vis, tout le monde, est induit ainsi et conditionné, informé par le karma. Dans sa dimension profonde, le karma ne peut être complètement compris aujourd'hui. C'est une réalité très cachée qui ne peut être perçue qu'à l'éveil. Néanmoins, sans pleinement le comprendre, mais entrevoyant certains de ses aspects, nous pouvons déjà renoncer aux actions nuisibles et essayer à chaque instant de cultiver les positives. De cette manière, nous éviterons des naissances misérables et progresserons dans des existences heureuses jusqu'à l'éveil où nous aurons la compréhension complète du karma. Ces quatre pratiques préliminaires communes, donc ces quatre notions, méditation, ou quatre idées fondamentales aussi, sont extrêmement importantes et nous devrions continuellement en faire l'objet de nos méditations, de nos réflexions, jusqu'à ce qu'elles imprègnent toutes nos pensées, tous nos actes et toutes nos paroles. Si tout nous apparaît sous leur éclairage, nous pourrons appliquer et pratiquer le dharma sans difficulté, et aucun obstacle ne nous fera trébucher. Si nous les assimilons bien, nous aspirerons profondément à l'éveil et aurons beaucoup d'énergie pour suivre sa voie. Dans ces quatre méditations, il s'agit de s'en imprégner, il s'agit d'entrer dedans, d'y réfléchir, de les considérer, mais aussi de les répéter, nous familiariser avec celles-ci, de les ruminer et qu'elles habitent en nous, qu'elles nous imprègnent et qu'elles soient présentes en nous continuellement. Et c'est pourquoi il est important de les méditer quotidiennement pour qu'elles puissent vraiment changer notre mentalité et être en nous constamment et en chaque situation lorsque nous sommes en prise de décision ou dans une alternative, que nous puissions agir avec attention dans l'intelligence et la perspective de ces quatre réalités. Un moment de méditation. De vertu ainsi pratiquée et sans aucune appropriation, dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.